Vous écoutez France Musique.
Oh, un coquillage. Oh, un bateau. Et puis encore un là. Deux, trois, quatre. Oh, c'est magnifique. Oh, encore un.
Bonjour à tous et bienvenue comme tous les jours de l'été, du lundi au vendredi à 15h. C'est vos plages sur France Musique, une plage avec aujourd'hui tout plein de stars dedans.
Molto pianto, padre, soffri per poco ancora, lieto alla nuova aurora, sarai dei figli in sé, un avvenir beato, ti serva il nostro amore, il tuo dolente cuore. Molto pianto, padre, soffri per poco ancora, lieto alla nuova aurora, sarai dei figli in sé, un avvenir beato, ti serva il nostro amore, il tuo dolente cuore.
Vendicata, vien, vendicata, vien, vendicata, vien, 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 vien
J'en vois déjà certains qui font une tête pas fraîche devant ces excès vocalisantes. C'est pourtant extraordinaire ce que nous fait ici Juan Diego Flores dans la musique de Bellini, un extrait de Bianca et Fernando. Cet extrait d'un disque des airs pour Rubini que Juan Diego enregistrait en 2006 avec à ses côtés Roberto Abbado, l'orchestre et puis de temps en temps les chœurs de l'Académie Sainte-Cécile à Rome, bien sûr. Cet hommage à Rubini, Giovanni Battista, de ses prénoms, en son temps surnommé le roi des ténors. Il le fut, en effet, à Paris, Vienne ou Milan dans les années 1820-1830, avec des aigus, paraît-il, stratosphériques. Ben, la preuve, parce que l'air qu'on vient d'entendre a été écrit pour lui, Bellini l'a fait juste dans sa voix. Ce n'était pas le seul compositeur à écrire pour Rubini, c'était une des particularités de ce chanteur d'alors. Il aimait la création, comme on dit. La création n'était peut-être, en ce temps-là, pas autant éloignée du grand public que celle d'aujourd'hui. Star, eh bien, Horowitz l'était lui aussi, à sa manière, grâce à sa virtuosité ébouriffante, à sa personnalité hors du commun aussi. Ça n'empêchait pas de se faire poète au besoin. Célestien, ça ne peut être que du Liszt, bien sûr. L'impromptu, dit encore nocturne, en fa dièse majeure, joué par Vladimir Horowitz en ses années new-yorkaises. Nous étions là en 1985 pour Deutsche Grammophon. On a pu dire d'Anton Bruckner qu'il a fait rentrer Wagner dans la grande salle de concert. Wagner, auparavant, c'était l'opéra, bien sûr, mais en lui donnant une forme, une traduction symphonique, Bruckner lui a donné encore une dimension supplémentaire. On pourrait tout aussi bien dire que le compositeur a fait entrer l'Église dans la salle de concert, tant ses œuvres sont empreintes toujours de religiosité. On le sait bien sûr pour les symphonies. Mais il faut se souvenir qu'Anton Bruckner était musicien d'Église avant tout. Il a commencé sa carrière comme organiste. Il l'est resté à peu près toute sa vie, pratiquant à tous les sens du terme et pratiquant entre autres l'écriture de messe. Ainsi, cette grande messe en ré mineur, la première de son catalogue, officiellement en tout cas, fut donnée en tout cas à Vienne en 1867. C'était la première fois qu'une œuvre de Bruckner était donnée dans la capitale autrichienne. Il avait déjà 43 ans. Auparavant, c'était, on va dire, une carrière de musicien presque provinciale et entre autres, grâce à cette messe en ré mineur, il trouva une dimension, en tout cas nationale, très forte. Elle est monumentale, cette messe en ré mineur, doloriste par certains aspects, mais d'une puissance telle. C'est John Eliot Gardiner qui en dirige ici le Kyrie. Le kyrie de la première messe d'Anton Bruckner, John Eliot Gardner dirigeait le Philharmonique de Vienne et le chœur Monteverdi. Après un si douloureux et si magnifique Kougloff, je me dis que vous aurez peut-être envie de vous rafraîchir les oreilles. Voici donc un petit Vivaldi dans la famille Mogol, enfin grosso mogul, comme nous dit le texte, référence à un certain Akbar qui régna en Inde à la fin du XVIe siècle et dont la figure, dit-on, a inspiré le Vénitien pour ce qui suit. Je ne sais pas où, mais le grand Mogol est là, caché quelque part. Il faut le chercher comme on chercherait Hortense, et c'est Victoria Moulova qui trouve.
Thank you.
On laisse filer la résonance. Martial, royal, un peu abrupt aussi, c'était le portrait du grand mogol Akbar, réinventé par Antonio Vivaldi, dans le concerto qui porte ce nom, Grosso Mogul, le grand mogol. Rayum 208, c'était Victoria Mulova. Il Giardino Armonico, dirigé par Giovanni Antonini. Béla Bartók a écrit ses quatre pièces pour orchestre en 1921, enfin écrit en réalité, c'était l'orchestration de quatre autres pièces, mais cette fois pour le piano, composées presque 10 ans auparavant. C'est tout à fait étrange parce que lorsqu'on entend la version d'orchestre, on se dit que c'est fait pour ça, absolument pour cela. En particulier, le prélude, avec son côté pastoral, serein, des couleurs superbes, un frémissement général. Non, non, c'est pensé pour l'orchestre, rien à faire. Une pièce pleine de nature, comme si le dieu Pan lui-même s'éveillait sous nos yeux, avec toutes ses nymphes autour. Le dieu Pan, ce sera Pierre Boulez, et les nymphes, celles de l'orchestre de Chicago. Le prélude des quatre pièces pour orchestre, opus 12 de Béla Bartok, l'Orchestre symphonique de Chicago, mené par Pierre Boulez. On dit souvent que Beethoven a fait éclater les formes de la sonate, qu'il a expérimenté, cassé le moule, révolutionné l'approche comme personne avant lui. Eh bien, c'est une bêtise. Enfin non, c'est pas une bêtise, sauf que pour être précis, la forme sonate, par définition, c'est une forme en devenir, d'expérimentation, de cette forme et de tout ce qu'il y a autour. Tenez, avec Joseph Haydn, ici une petite sonate de 6 minutes à peine. 2 mouvements seulement, 2 et pas les 4 traditionnellement supposés, andante et presto, comme une improvisation notée d'une fraîcheur et d'une réinvention totale.
Thank you.
J'adore littéralement ce petit final de rien du tout avec ses petites brusqueries et son lyrisme contenu. Pourtant, Haydn, lorsqu'il écrit cette sonate en ré majeur, sa 51e, il n'est pas tout jeune, hein, mais que voulez-vous ? Le bonheur, quand on l'a, ça ne vous quitte pas. C'était ici Alfred Brendel qui jouait cette 51e sonate de Joseph Haydn. Ah bah tiens, un autre dans le genre, Leo Janáček. En 1924, il a 70 ans, il n'a pas vécu que des choses drôles dans sa vie. Loin de là, il a connu des deuils, beaucoup, et des cruels, des déceptions. Sa musique n'est pas vraiment reconnue en dehors des frontières tchèques. Il n'a plus vraiment l'âge de faire carrière. Il pourrait baisser les bras, attendre que la mort vienne. Eh ben non, une vitalité folle, une sorte d'incompréhensible optimisme le pousse à écrire encore et encore. Ainsi, ce sextuor avant qu'il intitule « Mladi, jeunesse » à 70 ans quand même, tout un programme.
Thank you.
Le dernier mouvement de Mladí, jeunesse de Leo Janáček, par les membres du quintet avant de Prague et d'une nonnette tchèque. On vient d'entendre deux pièces de vieilles personnes qui écrivent de la musique de jeunes. Et ben on va faire l'inverse maintenant, on va prendre un jeune qui écrit de la musique de vieux. Henry Purcell, en 1680, à 21 ans, il compose ses fantaisies pour ensemble de viol, un genre qui est à cette époque-là totalement suranné. Tout d'abord, il est trop contrapuntique pour être goûté par le public d'alors. Et puis, tout ça pour la viole de gambe, alors qu'elle est en train de se faire détrôner par le violon. Bon, tant pis, il veut montrer à Purcell ce qu'il a comme art, et pour cela, rien de mieux que d'aller vers ces viols de gambe tellement savantes. 15 pièces étonnantes, dont une sur une seule note d'ailleurs, véritable gageure d'écriture, et puis il y a cette innominée à cette partie d'une science incomparable. Henry Purcell, l'innominée à cette partie qui referme ses fantaisies de 1680. C'était ici les basses réunies de Bruno Coxey, un disque qui est sorti il y a peu. Si vous posiez la question du clavecin, eh bien sachez qu'il était joué par Bertrand Cuiller. Un clavecin qui a dû être préparé, je pense, au niveau des plumes de manière très curieuse et pour sonner peut-être comme un virginal, qui était un instrument certainement plus idiomatique du temps de Purcell que le clavecin. Enfin, je dis ça plein de doutes. Le tout, quand même, sonne pas mal du tout. C'est l'une des plus grandes mozartiennes du siècle. Oh, elle n'aurait chanté que cela, je crois qu'on l'adorerait déjà, mais en plus, elle a appliqué sa sorte de gouaille enfantine à plein de choses, tout ce qui pouvait y convenir. Enfin, gouaille enfantine, est-ce que ça convient vraiment à Imgard Seyfried? Je ne sais pas. Vérification par Moussorski.
hörst du? Bitte komm zum Spielen heute, aber rechtzeitig. Nur vorwärts! Muss ja weit noch reiten, doch vor Abend noch bin bestimmt zurück. Ich furchtbar früh schon, müssen ja zu Bett, leider allzu nicht zu spät. Da 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 da.
C'est en 1953 que Irmgard Seyfried interprétait ici cet extrait des Enfantines de Moussorgski. En allemand, vous l'aurez entendu, peut-être, on saute au cerceau, on dit des bêtises, on se fait mal. Mais à la fin, c'est pas grave, parce que quand on est un enfant, c'est jamais grave. Eric Verba était au piano ici pour accompagner la grande Seyfried qu'on va retrouver encore dans ce qui suit, la 4e symphonie de Gustav Mahler, son dernier mouvement final, qui est un lead, Irmgard Seyfried. Pour l'enfance, mais oui, elle l'a toujours été, elle a eu ça dans la voix, cet esprit d'enfance. On le sait, c'est celui de certains compositeurs comme Moussorgski, qu'on vient d'entendre, comme Janáček tout à l'heure, et comme Mahler, dans cette 4e symphonie en tout cas. Et elle s'est donnée à cela une couleur incroyable, une émotion là, une éternelle jeunesse. Irmgard Seyfried avec Bruno Walter.
Thank you.
Bien sûr, la prise de son n'est pas très bonne, mais que voulez-vous, c'est du pirate. Ah, je sais ce que vous allez me dire. Pirater la musique, non merci. Ben oui, mais on ne l'aurait pas fait, on n'aurait pas eu ça. C'est-à-dire Chérubin, Monté au ciel. J'ai nommé Irmgard Seyfried en 1950 à Salzbourg, avec Bruno Walter et les membres du Philharmonique de Vienne. Merci à Annie Comier, Céline Parfenoff, Jean-Paul Lafavergès et Thibaut Gouffier. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée à l'écoute de France Musique. Vous vous retrouverez dans deux semaines pour de nouvelles plages.